Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dites aux pusillanimes, prenez courage et ne craignez point, car notre Dieu, voici notre Dieu, viendra et il nous sauvera. Mes très chers frères, en ce troisième dimanche de l'Avent, l'Église nous fait un commandement de nous réjouir. Si elle nous fait trembler au premier dimanche de l'Avent, pour nous faire entrer dans la voie avec crainte et tremblement, elle arrivait à la moitié du temps de l'Avent, eh bien, l'Église sait quels sont les états, les tentations de découragement qui se présentent à nos esprits. Le temps de l'Avent, comme vous le savez, représente aussi le temps d'avant la venue du Messie. Et donc, on comprend que vers la moitié de ce temps, les hommes, les chrétiens ont commencé à être, ont pu être quelque peu découragés, d'où certaines paroles des psaumes, d'où certaines paroles des prophètes, qui attendaient notre Seigneur, qui semblait ne pas venir. D'où la parole du prophète, s'il tarde, attendez-le. Nous sommes arrivés à la moitié du temps de l'Avent, à peu près, et l'Église nous fait un commandement de nous réjouir parce qu'elle sait que nous pouvons être découragés. Elle varie les encouragements et ne nous met pas toujours une pression terrible sur nous, puisqu'elle sait que nous ne sommes que poussière et nous avons besoin de divers types d'encouragements. Donc, elle ne nous console, mais elle ne nous console qu'en nous donnant un ordre qui soit utile à notre situation, c'est-à-dire nous réjouir en Dieu. Donc, nous allons voir certaines choses avec l'aide du Saint-Esprit. Et premièrement, nous allons voir que pour recevoir la lumière divine, il faut se reconnaître ténèbres. Et la condition préalable, et c'est la condition préalable pour recevoir la lumière divine, c'est de haïr ces ténèbres. Ensuite, nous verrons comment nous devons nous maintenir en état de conserver la grâce. Et c'est pour cela que nous verrons qu'il nous faut connaître le fondement de la joie chrétienne. Et enfin, nous terminerons en voyant que la bénédiction divine ne vient que sur les exilés, conformément au texte d'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il nous faudra nous en rendre dignes, et nous verrons comment nous en rendre dignes avec l'aide de Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Voilà ce que nous fait dire l'oraison d'aujourd'hui. Prêtez l'oreille, Seigneur, à nos prières, et venez par votre présence pénétrer de clarté les ténèbres de notre esprit. Orem tuam que sumus domine precibus nostris accommoda, et mentis nostre tenebras, gratia tue visitationis illustra. Nous demandons donc à Dieu qu'il prête l'oreille à notre prière. Un auteur nous fait remarquer que les anges et les bienheureux dans le ciel prient d'une façon très différente de la nôtre. Ils ne font monter à Dieu que des actions de grâce, ils ne font monter à Dieu que des chants de louanges, et de reconnaissance pour leur fixation dans la béatitude. Ils n'ont donc aucune prière de détresse, aucune prière de crainte, aucune prière de demande, puisqu'ils ont déjà tout obtenu. Ils sont dans la joie et l'allégresse devant le trône de Dieu, où ils louent le Seigneur jusqu'à la fin des temps. Voilà un état qui est un état bienheureux, et c'est pour cela qu'on l'appelle la béatitude. Mais l'Église militante, et nous ne parlons pas de l'Église souffrante ici, mais l'Église militante est aussi une partie de cette Église. Aujourd'hui, l'Église militante est réduite à peu de choses, puisque la quasi-totalité des élus sont déjà au ciel. Mais enfin, il reste encore l'Église militante, et jusqu'à la fin du monde, l'Église militante sera ici-bas, puisque sinon le monde n'a plus de raison d'être. L'Église est aussi militante, donc. Elle se bat sur la terre contre les envahissements de la concupiscence et contre le démon de l'amour-propre. C'est pour cela que nous sommes dit des êtres en état de voie. Nous sommes en état de voie parce que notre état diffère de l'état des bienheureux qui sont en état de compréhension, c'est-à-dire de ceux qui possèdent la réalité de ce qu'ils cherchaient, de ce qu'ils demandaient. Nous sommes en état de voie, nous sommes dans un état de voyageurs, de telle sorte que nous sommes en proie à toutes sortes d'ennemis, à toutes sortes de tracas sur notre chemin. Et c'est toute la différence entre ceux qui sont arrivés et ceux qui sont encore dans la voie. Ceux qui sont arrivés se reposent, de leurs travaux, comme dit la liturgie des défunts, tandis que ceux qui sont encore vivants, eh bien, ils travaillent, c'est-à-dire ils souffrent. Ils souffrent et ils souffrent essentiellement, comme nous l'avons dit, des envahissements de la concupiscence et du harassement du démon de l'amour-propre et tout ce qui va avec. C'est pour cela que nous disons à Dieu dans l'oraison aujourd'hui, prêtez l'oreille, Seigneur, orem tuam quesumus domine precibus nostris accommoda. Si l'on pouvait traduire littéralement, mais ce ne serait pas tout à fait correct, on pourrait dire accommodez votre oreille, Seigneur, à nos prières. C'est-à-dire que l'oreille de Dieu est en quelque sorte au diapason, si l'on peut dire, des louanges que les bienheureux et les anges lui font monter devant lui. Mais nous lui demandons de ne pas nous mépriser, et c'est pour cela que le psalmiste dit que selon la grandeur de sa bonté et de sa miséricorde paternelle, Dieu se préoccupe de nous. Nous le savons, puisque notre Seigneur nous l'a dit, Dieu se réjouit même, d'une certaine manière incompréhensible, il se réjouit plus de la conversion d'un pécheur que de la persévérance de 99 justes. Dieu se réjouit plus qu'un homme en état de voie quitte ses mauvais sentiers pour entrer dans la voie de Dieu, qu'il ne se réjouit qu'il y ait une multitude de saints qui ont été confirmés dans la grâce et qui sont allés au ciel après leur mort. D'une certaine manière, c'est paradoxal, parce qu'on pourrait dire que Dieu se réjouit en tout temps, et cela est vrai. Mais c'est notre Seigneur qui nous le dit. Donc, notre Seigneur aime prêter l'oreille à nos prières, et c'est pour cela que nous lui demandons de prêter l'oreille à nos prières. Vous voyez, l'Église ne nous fait rien demander à Dieu qui soit inutile. Elle nous interdit la superstition, c'est-à-dire le fait de demander ou de s'attendre à des choses qui ne sont pas prévues par Dieu de nous donner, mais elle nous fait demander des choses à Dieu d'une manière où nous savons que nous serons nécessairement exaucés si nous nous prêtons évidemment à l'esprit dans lequel l'Église veut que nous prions. Donc lorsqu'elle nous fait dire à Dieu « Prêtez l'oreille, Seigneur, à nos prières », elle veut que nous prions parce que Dieu va prêter l'oreille à nos prières. Dieu se plaît à répandre sa grâce là où le péché abonde. Là où la concupiscence fait rage, il se plaît à donner les forces pour combattre la concupiscence. Là où l'amour propre veut dicter la marche à suivre, il se plaît à donner sa grâce de telle sorte que nous ne fassions pas ce que requiert notre volonté propre, notre amour propre, mais la volonté de Dieu, la loi de Dieu. Donc vous voyez, c'est pour cela que saint Paul dit quelque part, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce n'est pas une chose qui est mathématique et nécessaire, c'est tout simplement une application de cette parole du psaume des Profondis, copiosa apudeum redemptio. La rédemption est copieuse et nombreuse et abondante auprès du Seigneur. Donc, vous voyez, prêtez l'oreille, Seigneur, à nos prières, ce sont des paroles qui nous rendent Dieu favorable et nous savons que Dieu ne demande qu'à nous exaucer. Encore faut-il que nous demandions la bonne chose. Et après avoir invoqué le Seigneur pour lui demander d'accommoder son oreille à la faiblesse de nos cris, eh bien, l'Église nous fait demander quelque chose. Et venez par votre présence pénétrer de clarté les ténèbres de notre esprit. Et mentis nostre tenebras, et les ténèbres de notre esprit, de notre âme, gratia tue visitationis illustra, illuminé par la grâce, gratia tue visitationis, de votre visitation. Les ténèbres dont il est question ici, c'est en quelque sorte la clé de cette oraison collecte. C'est-à-dire que nous aurons beau demander à Dieu qu'il prête l'oreille à nos supplications, si nous ne supplions pas de la bonne manière, il va nous entendre et va être dans l'impossibilité de nous exaucer, de telle sorte que Salomon dit dans les Proverbes, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en abomination à Dieu. Donc, si nous savons que Dieu est en train de prêter l'oreille à nos prières, nous devons nécessairement confesser que notre âme est remplie de ténèbres. Et mentis nostri tenebras, les ténèbres de notre âme. Si nous nous imaginons suffisamment éclairés par des grâces que nous avons reçues, plus ou moins par notre propre mérite, que Dieu n'a pas pu nous refuser puisque nous les avons mérités, si nous nous imaginons que nous sommes éclairés par la force que nous tirons de nous-mêmes, la motivation que nous avons pour combattre pour Dieu, que nous tirons de nous-mêmes, de raisons secrètes qui sont en nous, si nous nous imaginons que, d'une certaine manière, la chute n'a pas provoqué en nous autre chose que la disparition de dons dont, dans le fond, nous n'avions pas tellement besoin, alors Dieu ne pourra pas nous répondre. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de négocier avec l'Église, et l'Église ne négocie jamais, nous sommes en train de négocier avec l'Église le terme de ténèbres de notre esprit. L'expression de ténèbres de notre esprit, et nous disons que finalement, nous préférerions dire grisaille plutôt que ténèbres, flou plutôt que ténèbres, légère inconstance, légère brouille plutôt que ténèbres. Or l'Église nous garantit que l'oreille de Dieu est prête à nous écouter dans la mesure où nous confessons que notre esprit n'est que rempli de ténèbres. Et que, puisque nous demandons la clarté de la visitation de Dieu, la clarté de la grâce de Dieu, nous sommes en nous-mêmes absolument incapables d'être autre chose que ténèbres. Livrés à nous-mêmes, considérés en nous-mêmes, nous ne sommes que ténèbres. Si on voit dans une maison qu'on visite ou une maison qu'on fait visiter, on dit voilà une pièce qui est très lumineuse. Effectivement, on rentre et il y a une très belle lumière à l'intérieur. C'est une pièce qui est très lumineuse, effectivement, mais que vienne la nuit et la pièce lumineuse sera totalement ténébreuse. Pourtant, vous allez dire, c'est une pièce qui se prête à la lumière. La pièce avec les plus belles baies vitrées, la pièce avec le fond sur les murs le plus clair possible qui puisse refléter la lumière, la pièce même qui est pavée en quelque sorte de miroir, est ténébreuse si la lumière ne rentre pas. La pièce est dite lumineuse en raison de la lumière qui se diffuse en elle. Mais que la lumière se retire, la pièce est ténébreuse. Vous voyez, la pièce la plus lumineuse de la maison est ténébreuse la nuit. Donc ce n'est pas parce que nous sommes baptisés, ce n'est pas parce que nous avons fait des progrès dans la vertu, ce n'est pas parce que nous avons de bonnes idées, ce n'est pas parce que nous sommes orthodoxes, ce n'est pas parce que nous voulons beaucoup combattre pour la gloire de Dieu et le triomphe de l'Église, que sais-je, que nous sommes lumineux. Nous ne sommes que ténèbres si la grâce ne vient nous visiter et ne vient dissiper ces ténèbres qui nous caractérisent intrinsèquement. Vous allez dire, c'est un peu dommage que l'Église, à chaque fois qu'elle nous fait demander quelque chose à Dieu, ou plutôt qu'elle nous garantit que Dieu est en train de nous écouter, ce qui est une chose qui est quand même assez rare et il n'y a que l'Église qui peut nous le garantir, elle nous fait en même temps, elle nous vexe. Eh bien, si vous appelez cela être vexé, alors, n'oubliez pas que la fameuse pièce lumineuse dont nous avons parlé avait un esprit et pouvait être vexée, elle serait vexée qu'on dise, de s'entendre dire qu'elle n'est lumineuse que par le soleil qui rentre. Et donc, elle pourrait très bien, si cette pièce avait une volonté propre et des mouvements propres, elle pourrait très bien se fermer au soleil en se disant « Non, je suis une pièce lumineuse et je n'ai pas besoin du soleil ». Mais ce faisant, elle se persuaderait, puisqu'on a écrit sur la porte « pièce lumineuse ». Donc elle se persuaderait d'être lumineuse, mais en réalité elle serait ténébreuse. Ce n'est donc pas vexer la pièce que de dire qu'elle est lumineuse par le soleil, c'est au contraire préparer à la pièce un surcroît de gloire que de dire qu'elle qui n'est que ténèbre par elle-même est façonnée de telle sorte que le soleil n'a aucun obstacle pour rentrer et pour l'illuminer. Donc, il ne s'agit pas de dire que l'Église, ou de ressentir le fait que l'Église nous vexe en nous faisant formuler des choses devant Dieu qui semblent insultantes pour notre dignité. Il s'agit de comprendre que, sans cette description adéquate de ce que nous sommes, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, car Dieu refuse sa grâce aux orgueilleux, mais il l'accorde aux humbles, dit l'apôtre. Donc, si nous ne confessons pas à Dieu que nous ne sommes que ténèbres sans la visitation de sa clarté, alors il se trouve que nous ne serons jamais éclairés. Donc la première chose que nous devons, dont nous devons nous souvenir, mes très chers frères, c'est que nous ne sommes que ténèbres en nous-mêmes et que livrés à nous-mêmes, nous ne sommes que ténèbres, ténèbres redoublées, puisque ténèbres conscientes, ténèbres raisonnables, si nous nous privons de la présence de Dieu, c'est que nous ne voulons pas que Dieu nous illumine. C'est là le mystère de notre liberté. Et si nous ne voulons pas que Dieu nous illumine, alors nous ne voulons pas non plus prier, mais nous prions, l'Église nous fait prier, pour que Dieu vienne nous illuminer par la grâce de sa visitation. Et c'est exactement ce que nous devons demander pendant ce temps de l'Avent. Qu'est-ce que c'est que cette grâce de la visitation? Eh bien, nous devons savoir que Dieu ne nous donne pas sa grâce comme on jette un os à un chien. Vous voyez, comme on jette des cacahuètes à un singe dans une cage, ou comme on jette, je ne sais pas moi, encore une fois, un os à un chien. C'est-à-dire que le chien est là-bas, on a un os dans la main, on le jette, on le lui jette, on sait que ça va lui faire plaisir, parce que le chien aime bien les os, donc il va le manger, mais d'une certaine manière, il n'y a aucune interaction. Vous allez dire, on pourrait apporter une gamelle au chien pour qu'il mange en notre présence et se réjouisse en notre présence. Oui, d'une certaine manière, si c'est un chien qui est agréable, si ce n'est pas un chien féroce et furieux. Dieu ne nous donne pas sa grâce d'une façon lointaine. Il ne nous jette pas sa grâce comme un chien et il ne nous apporte pas non plus sa grâce comme si nous étions en quelque sorte séparés de lui par le baptême. Nous avons été faits membres du corps mystique du Christ. Or, Dieu n'aimant que son Fils, il nous aime comme son Fils dans la mesure où par le baptême nous sommes membres du corps du Christ. Donc il nous donnera sa grâce non pas de loin, mais en se donnant à nous. C'est donc par une visitation spéciale qu'il nous éclaire de lui-même, car il est lui-même la grâce qu'il nous donne. Il y a bien des choses magnifiques à dire, mais nous avons d'autres choses à voir. Alors nous disons simplement que lorsque Dieu nous donne sa grâce, c'est lui-même qui se donne à nous. D'où l'extraordinaire ingratitude de celui qui, après avoir reçu la grâce de Dieu, ne se met pas dans des conditions, ne se conserve pas dans des conditions où il puisse conserver cette grâce. Heureusement que notre Dieu est patient et miséricordieux et qu'il ne s'offense pas comme nous nous offensons. Nous l'offensons, nous sommes infidèles et lui demeure fidèle. Mais enfin, il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde. Nous ne pouvons demeurer dans des conditions où la grâce peut être retenue que dans la mesure où nous nous sommes reconnus auparavant ténèbres. Et nous devons haïr ces ténèbres. Celui qui aime ces ténèbres, la pièce dite lumineuse qui se ferme au soleil parce qu'elle est vexée d'être dite ténébreuse sans le soleil, ne peut pas, cette chose-là ne peut pas recevoir la lumière. Mais lorsque l'on reçoit la lumière, alors il faut se maintenir dans un état où la grâce peut être retenue. Saint Paul nous dit ceci, « Réjouissez-vous, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le dis à nouveau, réjouissez-vous, que votre modération soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Nous pourrions dire, c'est facile de dire réjouissez-vous, mais pour se réjouir, il faut avoir un motif. Donc si je suis dans la tristesse, dans l'abattement, je n'ai aucune raison de me réjouir, et Saint Paul a l'air d'une sorte d'excité qui me dit de me réjouir. Écoutons plutôt la théologie, les commentateurs, qui vont nous expliquer ce que veut dire Saint Paul. Saint Paul nous dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors déjà, avant même de savoir ce que cela signifie, il nous faut comprendre que Saint Paul nous parle à l'impératif, c'est-à-dire qu'il nous donne un ordre. Même si nous ne nous sentions pas portés à nous réjouir, nous devrions au moins chercher comment nous réjouir, parce que nous ne pouvons pas ne pas nous réjouir, puisqu'il nous est dit « réjouissez-vous ». Il ne nous dit pas « si vous avez le temps, pensez à vous réjouir » ou « si vous vous sentez d'humeur joyeuse, réjouissez-vous ». Il nous dit, en ce troisième dimanche de l'Avent, « réjouissez-vous ». Si vous ne vous réjouissez pas, eh bien, d'une certaine manière, vous tombez sous la condamnation. De ceux qui sont rebelles et qui sont désobéissants. Vous allez dire, je préfère qu'on me dise ne commettez pas d'adultère, ne volez pas, ne mentez pas, au moins ça c'est du concret, se réjouir, on ne commande pas la joie. Ce n'est pas faux. C'est pour cela que un autre commentateur nous dit ceci, le fondement de la joie chrétienne, c'est l'espérance des biens éternels. C'est cela qui fait que c'est une joie inaltérable, parce que toutes les joies que nous pouvons éprouver ici-bas, et qui tiennent à des raisons temporelles, sont en quelque sorte anéanties si les raisons temporelles viennent à disparaître. Je me réjouis dans la perspective de faire un bon repas. Mais qu'est-ce qui se trouve? La cuisine brûle, Le repas est brûlé. Je n'ai donc plus l'occasion de me réjouir, une raison de me réjouir, et donc je suis dans la tristesse. Je me réjouis de ce que je vais recevoir un trésor. Ma maison brûle, mais en même temps, je ne suis pas aussi triste que je pourrais l'être, parce que ce trésor que je vais recevoir me permettra de remplacer ma maison qui a disparu. Donc oui, même dans les choses, dans les choses temporelles, il n'est pas impossible de trouver quelque analogie des choses spirituelles. L'attente d'ici-bas dans laquelle nous vivons se corrompt, se détruit petit à petit, et c'est les ravages du temps, dit saint Pierre, et pourtant nous aspirons à revêtir une demeure incorruptible. Ici-bas, les hommes sont contraires à nous, ils nous calomnient, ils font toutes sortes de choses, ils sont méchants, ils se comportent comme des méchants, mais cela ne peut pas altérer notre joie, puisque notre joie a pour raison, a pour fondement, l'espérance des biens éternels. Donc même si tout nous est contraire dans le temps, notre joie reste inaltérable parce que sa raison est inaltérée. Il faut donc, mes très chers frères, mettre et développer toute notre espérance dans les biens éternels. Si nous sommes attachés aux choses de la terre, évidemment, saint Paul nous paraîtra comme un farfelu qui nous demande quelque chose d'impossible. Si saint Paul nous dit bien « Réjouissez-vous dans le Seigneur en raison des biens éternels qui sont promis à ceux qui craignent Dieu », alors nous devons nous réjouir et nous devons comprendre que si nous ne nous réjouissons pas, c'est que nous avons un défaut dans l'espérance. Je le répète, le fondement de la joie chrétienne, c'est l'espérance des biens éternels. Il faut donc, pour les désirer, mépriser les biens temporels, qui sont les raisons des joies impures, appelées satisfaction charnelle. Et c'est l'aboutissement de la concupiscence. Chacun est amorcé, dit saint Jacques, par sa propre concupiscence. La concupiscence ayant conçu engendre le péché. Si nous cherchons notre volonté propre, nous serons dans la tristesse ou dans une joie très fragile. Parce que même les hommes les plus corrompus et les plus puissants du monde, comme il y en a quand même quelques-uns, on ne peut pas s'imaginer qu'ils soient vraiment heureux, même si rien ne s'oppose à leur volonté. Pourquoi ? Et d'ailleurs on le voit bien, puisqu'ils cherchent tout le temps des causes de joie ou de bonheur toujours plus violentes. Et pourquoi ? Mais parce que l'accomplissement de la volonté propre ne produit jamais le vrai bonheur. Elle produit une sorte de satisfaction temporelle, mais cette satisfaction n'étant pas celle que Dieu a prévue pour nous, elle est comme la soif de l'alcoolique. C'est-à-dire qu'il boit, mais il boit non pas parce que son corps est altéré et qu'il a besoin d'eau pour se rafraîchir, il boit parce que, en quelque sorte, la boisson appelle la boisson. Et plus il boit, plus il a envie de boire. Et plus il a envie de boire, plus il boit. Et plus il boit, plus il se détruit. Et c'est un péché. En revanche, lorsque l'on met sa confiance et son espérance dans les biens éternels, on est de plus en plus dégoûté par toutes les fausses joies ou les joies relatives et transitoires que l'on peut trouver ici-bas et même que la grâce peut nous donner. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être ingrat pour les grâces temporelles, mais il ne faut pas s'y attacher. C'est facile à dire, évidemment, mais c'est ce qu'il faut faire. Heureux ceux qui pleurent, dit notre Seigneur. Les afflictions temporelles, mais aussi les luttes contre la chair rebelle, produisent en nous des larmes, et c'est-à-dire les larmes qui viennent de la douleur, de la rébellion que nous sentons en nous de la chair. L'esprit est combattu par la chair, et nous sommes parfois au bord du désespoir, parce que nous voyons que notre chair semble plus forte, et parfois, il se trouve que nous avons tant de tendresse envers notre chair que nous pleurons de la dureté de la religion chrétienne. La religion chrétienne est dure, elle est inexorable, et elle semble si peu faite pour l'être humain que nous sommes tentés de l'abandonner parce que nous nous disons que dans le fond, à part quelques biens éternels dont nous n'avons jamais vu l'ombre, il se trouve que on dirait que le bon Dieu s'acharne à nous priver ou à nous interdire tout ce qu'il y a de bon et de joyeux ici-bas. C'est une erreur. C'est d'ailleurs, si vous remarquez bien, c'est une erreur qui est formulée comme le serpent a formulé la parole de tentation à notre premier Ève dans le paradis terrestre. Il lui a dit « Est-il vrai que Dieu vous ait interdit de manger de tous les fruits du jardin ?» Non, simplement d'un seul. Et le démon vous dira le bon Dieu nous interdit toute joie temporelle, toute satisfaction, tout divertissement, sous prétexte qu'il nous faut tendre vers l'éternel. Ce n'est pas vrai. Il nous demande de les ordonner tous à lui-même et de ne jamais l'oublier lorsque nous sommes dans la joie temporelle. Et ce que nous faisons très facilement, parce que nous sommes naturellement idolâtres et que nous avons tendance à nous attacher à ce qui fait plaisir à nos sens, sachant que nous sommes tellement marqués par la chute, tellement dégénérés de la nature humaine originelle, que nous sentons à l'envers. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de temporel, de vil et d'abject, mais qui nous fait plaisir, qui se présente à nous, nous allons l'aimer et nous allons même avoir tendance à le sacrifier aux biens éternels dont nos sens n'ont pas la satisfaction, auxquels nos sens n'ont pas la satisfaction de goûter, idolâtres que nous sommes. C'est pour cela que notre Seigneur dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Encore faut-il ne pas rire. C'est pour cela qu'il est écrit « Malheur à vous qui pleurez, etc. » Il ne faut pas rire, c'est-à-dire dans le sens de notre Seigneur, il ne faut pas se délecter des choses temporelles de peur d'être inconsolable, puisque nous n'avons rien à, nous n'avons aucun chagrin à, que Dieu pourrait consoler. Heureux ceux qui pleurent. Les afflictions temporelles sont dit un auteur, sont des sortes de dons de Dieu qui nous gardent détachés, relativement détachés des choses temporelles. Et puis un autre auteur nous dit encore ceci. Saint Paul a raison, a grande raison, de nous exhorter à nous réjouir de notre espérance. Celui qui est sans la joie de cette vive espérance, demeure dans la lâcheté et la négligence de son salut. Et n'ayant point la force de résister aux tentations de cette vie, il est semblable aux infidèles dont parle l'apôtre, qui, je cite, « ayant perdu toute espérance, s'abandonne à la dissolution. » Car il est impossible que ceux qui n'ont point de goût pour les biens éternels ne s'abandonnent pas à leur passion pour y trouver leur joie. Ainsi, toute la force d'un chrétien consiste dans la joie que lui donne l'espérance des biens du ciel. C'est par ce moyen qu'il est en état de résister à toutes les attaques des ennemis de son salut. Donc vous voyez, mes très chers frères, bien souvent, nous sommes non pas dans la tristesse selon Dieu, mais dans la tristesse selon le monde. Nous sommes dans la tristesse parce que nous n'obtenons pas ce que nous désirons, mais Saint Jacques nous dit « Vous demandez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez de telle sorte à satisfaire votre concupiscence. » Or, Dieu ne veut pas nous pousser dans la pente, donc il nous refuse ce que nous lui demandons et nous pensons qu'il est mauvais. Un petit peu comme un enfant qui voudrait boire de l'acide parce qu'il trouve la bouteille très, très attrayante et sa maman le lui refuse absolument. Et même elle se fâche avec lui et même elle le frappe pour qu'il cesse d'agripper cette bouteille. L'enfant va se dire « Ma mère est très méchante parce que elle me prive de ce qui, à mes yeux, est un bien. » Mais sa mère serait véritablement méchante si elle lui donnait cette bouteille. Vous voyez, si elle ne la mettait pas hors de sa portée. Lorsque Dieu nous retire un certain nombre de choses qui nous feraient plaisir, ce n'est pas que Dieu est méchant et que Dieu est comme un chat qui joue avec une souris et qu'il est cruel. C'est que Dieu ne nous permet pas d'avoir des choses qui, infailliblement, nous séparerait de lui et nous ferait nous damner, sauf que ces choses nous feraient nous damner dans le cadre du christianisme et non pas en dehors de ce cadre. Vous voyez, souvent les chrétiens demandent à Dieu des choses qui leur semblent assez bonnes pour eux et Dieu ne les leur donne pas. Alors ils disent la religion chrétienne est insupportable parce qu'elle est extrêmement aride. Le problème, voyez-vous, mes très chers frères, c'est qu'il y a une façon très douce de vivre en chrétien et c'est cette façon-là que décrit l'Écriture lorsqu'elle dit malheur à celui que Dieu ne traite pas rigoureusement. Il y a une façon d'envisager la vie chrétienne tout en douceur, tout en jouissance, tout en via media, et tout en neutrapelli, si j'ose dire, ceux qui comprennent comprendront, eh bien, qui finalement est une voie du démon. On se réjouit, on se détend, on profite des bonnes choses de la vie, on est une sorte d'esthète, de sybarite chrétien, avec modération évidemment, comme le veut la formule, mais tout va bien. Eh bien, c'est de la sensualité. Si quelqu'un est dans cette situation-là, c'est que Dieu, possiblement, se détourne de lui et le laisse vivre une vie de douceur qui n'est pas très différente de celle des païens, sauf que les païens ont des choses un peu plus corsées et un petit peu plus délictueuses, mais dans le fond, c'est à peu près la même chose. On vit entièrement par la sensualité. Bienheureux celui que Dieu éprouve durant cette vie. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux celui qui peut faire l'expérience de ces ténèbres, du fait qu'il n'est que ténèbres, et qui peut être amené à détester ces ténèbres et à détester la vie de ces insectes aveugles et hideux et répugnants qui vivent dans les ténèbres. Vous savez qu'il existe des insectes et même des bêtes qui vivent dans les ténèbres. Ces bêtes ont des gros yeux ou elles sont aveugles, elles sont blanchâtres, elles ont des pattes, elles ont des antennes, elles sont horribles à voir, elles sont horribles à la vue et au toucher. Pourquoi ? Parce que ce sont des bêtes des ténèbres qui ressemblent comme en quelque sorte à des démons. Vous voyez, les bêtes qui vivent dans la lumière sont des bêtes qui sont en général qui sont belles. Vous voyez, un lion qui vit toute sa vie sous le soleil est un animal noble. Le cafard ou le ver immonde qui vit dans toute sa vie dans les ténèbres est ignoble et répugnant à la vue. Vous voyez, pourtant l'un fait peur parce qu'il est féroce et l'autre ne fait pas peur mais il inspire le mépris. Vous voyez, lorsque le chrétien vit dans les ténèbres et qu'il s'y fait sa place, sous prétexte que le christianisme est une voie de douceur et que Dieu accorde plein de choses bonnes à ceux qui ne tombent pas dans des défauts, que sais-je, protestants, gnostiques ou autres, eh bien, il se trouve que ceux-là sont véritablement dans une voie qui est très dangereuse. Ils ne se refusent rien de ce qui est permis, et je dirais, ces gens-là feraient mieux d'être musulmans que chrétiens. Parce que les chrétiens... Aux chrétiens, Dieu ne leur a pas promis le bonheur temporel. Il leur donne parfois, et bien même bien souvent, des occasions de se réjouir, et même il leur permet un relâchement dans les sens, dans le sens où les sens ne sont pas constamment flagellés. Ils sont aussi parfois agréablement surpris par des bonnes choses que Dieu leur donne. Mais il ne faut pas qu'ils s'imaginent, les chrétiens, que ce sont des choses normales. Ce sont des grâces de Dieu parce que nous sommes très faibles et qu'il nous donne comme un tout petit enfant qui marche, eh bien on l'aide, on ne le reprend pas de ce qu'il tombe, qu'il trébuche, on l'aide au contraire. Pourquoi ? Parce qu'il ne pourrait pas faire autrement. Maintenant, après, si on voit un enfant qui sait déjà marcher et qui fait semblant de mal marcher, on va lui dire « ne te comporte pas comme un imbécile ». Parce que ce n'est pas bien de faire semblant de ne pas savoir marcher quand on sait marcher. C'est la même chose pour les chrétiens. Plus l'amitié avec Dieu se resserre, plus Dieu prive des biens temporels, des biens de la sensualité. Pourquoi ? Parce que ce sont autant de pièges que Dieu épargne à ceux qu'il aime. Donc lorsque nous demandons à Dieu des biens temporels, des biens qui combleraient notre sensualité, soyons très attentifs à remarquer que lorsque Dieu nous les refuse, Dieu nous aime. Si Dieu nous les accorde, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas, personne ne peut savoir exactement quels sont les sentiments de Dieu. Mais ce n'est pas forcément bon signe. Très loin de là. Donc il est impossible, mes très chers frères, à ceux qui n'ont point le goût des biens éternels, il est impossible qu'ils ne s'abandonnent pas à leur passion pour y trouver leur joie, nous dit cet auteur. La force d'un chrétien consiste dans l'espérance qu'il a des biens éternels. Alors vous allez dire, oui, mais ces biens éternels, c'est extrêmement difficile, on dirait qu'on est dans l'abstraction lorsqu'on essaye de les aimer. Il faut donc faire un effort, mes très chers frères. Il faut faire un effort. Et c'est pour cela que l'offertoire nous dit « Vous avez, Seigneur, béni votre terre, vous avez délivré Jacob de la captivité, vous avez ôté l'iniquité de votre peuple. » Bene existi de mediteram tuam, avertisti captivitatem Jacob. La bénédiction de Dieu ne vient que sur les exilés. On dit souvent « Mais comment s'exciter à l'espérance ou à la joie des choses célestes, puisque ce sont des choses totalement au-delà des sens ?» Les cinq portes étant fermées, Dieu, le Christ, venait visiter les apôtres. Eh bien, ces biens, effectivement, ne sont pas accessibles aux sens. Ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas une certaine idée dans les choses licites que Dieu peut nous donner, et dans la mesure où nous ne nous y attachons pas, un bon repas du dimanche, pris avec reconnaissance, peut-être quelque chose qui peut nous donner une vague idée du repas éternel, du festin éternel, des noces de l'agneau dans le ciel. Bien sûr, ça n'a rien à voir, mais il y a quelque chose d'analogique. La bénédiction de Dieu, néanmoins, ne vient que sur les exilés. Vous voyez, « Bene existi, domine teram tuam ». Vous avez béni votre terre, Seigneur, vous avez béni votre Église, « Avertisti captitatem Jacob ». Vous avez converti les hommes pour les faire revenir de leurs anciennes voies. Et quelles sont ces anciennes voies ? Ce sont des voies malheureusement toujours nouvelles, ce sont les voies de la concupiscence, de l'asservissement aux démons. La bénédiction ne vient que sur les exilés. Dieu ne peut pas faire revenir quelqu'un qui n'est pas parti. Alors, rassurons-nous, nous sommes tous partis parce qu'il se trouve que lorsque nous naissons avec le péché originel, nous naissons non seulement exilés, mais en plus condamnés. Par le baptême, sans lequel nul ne peut être sauvé, par le baptême, nous sommes faits citoyens de la cité des cieux, donc nous passons d'exilés condamnés à exilés rachetés. Et la bénédiction de Dieu ne vient que sur les exilés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui aiment le siècle, ceux qui aiment le monde mondain, ceux qui sont charnellement attachés à la terre, ne sont pas des exilés. Ce ne sont pas des exilés. Ce sont des gens qui aiment le monde dans lequel ils sont. Or, ce monde n'est pas du tout la création de Dieu, etc. Ce sont des choses dont il faut que nous nous détachions, que nous soyons reconnaissants envers Dieu et que nous, dont nous nous détachions. Le monde mondain n'est pas la création de Dieu, c'est la création de l'homme et c'est le règne du démon. Ils ne se réjouissent pas des biens temporels, des biens célestes. Pourquoi? Parce qu'ils se réjouissent, ils mettent toute leur joie dans les biens temporels qu'ils désireraient ou biens temporels qu'ils ont. Bien souvent, on s'imagine être plus spirituel parce qu'on n'a pas les biens temporels qu'on désire et par rapport à ceux qui ont ce qu'ils veulent. En réalité, c'est la même chose. Notre père, Saint Augustin, dit qu'il n'y a pas de différence entre un riche qui vit, un riche avare qui vit dans la méchanceté et dans la richesse et un pauvre qui voudrait être riche pour pouvoir être avare et vivre dans la méchanceté et dans la richesse. C'est la même chose. Les deux, évidemment, ne vous diront pas que c'est la même chose, mais du point de vue de Dieu, c'est la même chose. L'un est dans le péché, l'autre voudrait être dans le péché, et les deux sont pécheurs. Donc la bénédiction de Dieu ne vient que sur les exilés. Donc nous disions, comment pouvons-nous nous réjouir de choses qui n'ont aucun impact dans nos sens? Eh bien, on ne peut pas se forcer à se réjouir, ça c'est certain. Et le charnel qui disait au début de ce sermon, même je ne vois pas comment est-ce que le Saint Paul peut me faire un commandement de me réjouir, puisque je ne me sens pas porté à me réjouir. C'est vrai. Donc il faut aller un peu en amont et se dire, comment me réjouir? Je ne peux pas me réjouir si je n'ai pas la conscience que je suis exilé. Et si je suis exilé, vous voyez, l'exilé, quelle que soit la beauté du pays auquel il a été, dans lequel il a été exilé, a toujours le mal du pays, comme on dit. C'est quelqu'un, mettons, qui est né dans le désert. Prenons un exemple qui peut être un peu paradoxal, mais c'est quelqu'un qui est né dans le désert, qui est né dans les cailloux, qui est né dans une tente, et puis il est exilé dans un pays tropical, extrêmement exubérant, où il fait très doux, il fait très bon, il y a les fruits qui poussent partout, il pleut trois fois par jour, la terre n'a même pas besoin d'être cultivée tellement elle pousse de fruits, etc. C'est le plus beau pays du monde où vivre, et pourtant il a la nostalgie de ses cailloux et de sa tente, la tente de son père et de sa mère, et les cailloux et les chèvres qui grignotent les arbres où il y a trois feuilles qui se battent en duel. Vous voyez, on va dire c'est étonnant pourtant. Oui, mais c'est parce que son cœur est, qu'on le veuille ou non, qu'il le veuille ou non, là où est son origine. Et on va lui dire, mais réjouissez-vous, oubliez votre pays, vous vivez dans tellement beau pays. Il va pouvoir dire, mon pays est moins beau que celui-ci, mais c'est mon pays. Vous voyez, mutatis mutandis, évidemment, le chrétien peut dire, oui, je vis dans un monde où les choses sont agréables, surtout la modernité, où il y a quand même pas mal de commodités. Hein. Il ne faut pas être ingrat envers la modernité. C'est vrai que la modernité nous accorde beaucoup de soulagement et de commodités. Bien sûr que nous sommes dans le monde, même le monde créé par Dieu, qui est beau. Nous voyons toutes sortes de beautés naturelles, nous voyons toutes sortes de choses qui ravissent notre âme dans les spectacles de la nature. C'est vrai, mais je ne suis pas de ce monde-ci. Alors vous allez dire, mais nous y sommes. Nous en sommes de ce monde-ci. Et c'est là où il faut faire très attention, mes très chers frères. Parce que c'est vrai que l'analogie avec le bonhomme qui a le mal du pays ne prend pas en compte le fait que nous sommes devenus citoyens d'un pays qui est désormais le nôtre, mais un pays dans lequel nous ne sommes pas littéralement nés. Nous sommes nés dans ce monde-ci, et c'est vrai que d'une certaine manière, lorsqu'on est dans l'Église, on a un certain mal du pays par rapport au monde. On aime le monde dans lequel on a été, et même si l'on se réjouit grandement d'être chrétien, il se trouve que le monde est quand même notre première demeure. Alors c'est là où il faut faire très attention, mes très chers frères. Il ne nous faut pas mépriser le baptême en pensant que le baptême est ou bien dû ou bien quelque chose qui nous a été donné par Dieu, sans lequel on ne peut être sauvé, et c'est vrai, mais qui fait que désormais nous pouvons être sauvés, puis après on va penser à autre chose. Le baptême, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait mourir à ce que nous étions autrefois. Et autrefois, nous étions enfants de la colère. Le baptême nous a fait mourir à ce que nous étions autrefois, et ce que nous étions autrefois est objectivement hideux, haïssable, horrible et atroce. Donc, je ne trouve pas d'autre comparaison pour expliquer comment le baptisé ex-mondain est un véritable citoyen des cieux, que l'exemple, que je crois que nous avons déjà utilisé par ailleurs, mais on peut le répéter parce que c'est vrai, du roturier qui a été anobli par le roi. Le roturier, avant, qu'est-ce que c'était? C'était un, je ne sais pas moi, c'était un propriétaire terrien, c'était un grand bourgeois, que sais-je. Il a été anobli par le roi. Désormais, par des lettres patentes, il fait partie de la noblesse. Est-ce que vous pensez un instant que ce nouveau noble va dire « Ah, lui qui porte maintenant l'épée, lui qui a tous les privilèges de la noblesse, va dire « Ah, je regrette mon état d'autrefois ». Ah non, pas du tout. Pas du tout. Même si dans son état d'autrefois, il pouvait y avoir des choses qui étaient très sympathiques, mais il va en avoir horreur parce qu'il va se dire « Si je me mets à regretter, je vais non seulement être ingrat, mais en plus je vais être en dessous de ma dignité ». C'est-à-dire que maintenant, je suis comte, je suis duc, je suis baron, disons, pour commencer. Et autrefois, je n'étais rien du tout. Donc, si je regrette mon état de rien du tout maintenant que j'ai un titre, c'est que vraiment, je suis un imbécile. Eh bien, motivons-nous comme cela, mes très chers frères. Comme il arrive souvent, les descriptions du ciel nous font moins d'effet que les descriptions de l'enfer. C'est pour cela qu'on a bien plus souvent la crainte de l'enfer que le désir du ciel quand on lit toute la littérature qui est sur le sujet. Donc quand on nous dit qu'on glorifiera Dieu de pour l'éternité, qu'on le chantera, qu'on le louera, combien de fois avons-nous entendu des gens dire « Oui, mais si c'est pour passer des milliards de millions d'années n'avec une petite lyre dans les mains et à honorer Dieu, moi je me demande s'il n'y a pas de plus de distraction en enfer. » Faisons très attention, mes très chers frères. Faisons très attention. Nous ne pouvons pas imaginer le bonheur du ciel parce que nous n'avons jamais été heureux sur la terre. Et si vous appelez être heureux le fait de donner lieu à tous les désirs de sa concupiscence, c'est être plutôt un esclave que d'être véritablement heureux. Nous ne savons pas ce qu'est être heureux, et d'une certaine manière, on ne peut pas nous le reprocher, Dieu ne peut pas nous le reprocher, parce que nous ne sommes que poussière, nous ne sommes que boue, et nous sommes dans un état d'une telle dégénérescence et d'une telle hideur que, en réalité, il sait très bien pourquoi les descriptions du ciel ne nous ravissent que très peu. Maintenant, il se trouve qu'une chose que nous pouvons considérer, ce sont les peines de l'enfer. Les peines de l'enfer, c'est tout simplement tout ce qui nous est désagréable ici-bas, mais des milliers de fois pire. Vous voyez, alors je sais que beaucoup de gens le disent, on le dit même pour plaisanter, mais cela est vrai. Vous voyez, lorsque nous nous faisons mal, lorsque nous tapons un doigt de pied, que nous pinçons un doigt dans une porte, que sais-je, nous avons horriblement mal. Et pourtant, nous savons qu'on peut souffrir ici-bas beaucoup plus. Quelqu'un qui se pince le doigt, qui se tape sur le doigt avec un marteau, ce n'est rien par rapport à la douleur de celui qui est amputé par un train qui passe, qui est amputé d'une jambe ou que sais-je. Donc, vous voyez, faisons très attention. Nous devons comprendre, nous devons essayer de nous efforcer, parce qu'il y a quand même des efforts à faire, mine de rien, nous devons nous efforcer de comprendre que ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous désirons aujourd'hui, toutes les tendances naturelles que nous trouvons en nous aujourd'hui sont non seulement horribles, mais elles sont détestables et haïssables. Et que tout ceci s'oppose à ce que nous sommes réellement par le baptême, qui est quelque chose de tellement merveilleux, eh bien que l'œil ne l'a pas vu, l'œil ne l'a jamais vu et l'oreille ne l'a jamais entendu, dit saint Paul. Nous devons donc, plutôt que de nous exciter à une sorte de joie qui ferait de nous des êtres rigolards et complètement superficiels, ce qui n'a rien à voir avec ce que dit saint Paul, nous devons nous efforcer de considérer combien nous sommes haïssables, combien nous sommes méprisables, combien nous sommes laids et indignes de tout, combien le plus grand bonheur que nous avons éprouvé est une sorte d'abjection sans nom dont nous devrions rougir, ici-bas, et combien tous les désirs de bonheur et d'assouvissement de notre sensualité sont des choses laides, dégoûtante et grotesque par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Je pense qu'il est, si nous considérons qu'il est hors de notre portée d'essayer d'imaginer les choses inimaginables, il est tout à fait à notre portée de travailler sur le mépris de nous-mêmes. D'ailleurs, celui qui se connaît bien se méprise lui-même, dit l'imitation. Alors vous allez dire, tout ceci est bien dur à entendre et je ne suis pas certain d'avoir la force de pouvoir me mépriser de cette manière-là. Malheur à celui qui se regarde dans un miroir et qui, au second degré, n'a pas horreur de cet état d'exil dans lequel il est. Malheur à celui qui peut se contempler et se dire j'ai quelques satisfactions en moi-même. Même les païens étaient capables de condamner la superficialité d'une telle attitude. Vous voyez, un coup de couteau, une porte qu'on prend dans la figure, une chute, et nous sommes défigurés. Et bien nous sommes tout le temps toujours les mêmes. Vous voyez, donc tout ce qui relève des apparences, tout ce qui relève même des choses un peu plus que les apparences, c'est-à-dire de nos qualités humaines, de notre hérédité, que sais-je, tout ceci, nous devons le mépriser. Non pas le mépriser comme si c'était méprisable parce que nous aimerions être la même chose mais différemment. Nous devons le mépriser pour l'amour de Dieu. Et quand on méprise quelque chose de naturel pour l'amour de Dieu, et quelque chose de naturel qui est licite, alors ça veut dire qu'on ne va l'utiliser que d'une façon qui est droite, licite et pour la gloire de Dieu, et qu'on ne va pas l'utiliser autrement. Vous voyez ? Donc ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans une sorte de névrose et qu'on va fuir les miroirs parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on a un gros nez, parce qu'on a des oreilles décollées, que sais-je. Non, et parce qu'on aimerait avoir un petit nez et des petites oreilles. On va se détourner de tout ce que la nature nous a donné en utilisant tout ce qui peut être utilisé pour accomplir notre devoir d'État, à la gloire de Dieu, et en laissant tomber tout le reste comme insignifiant et indigne de notre dignité. Le premier effet de la grâce est de nous ôter l'amour désordonné de nous-mêmes et de ce que nous appelons notre bien. Vous allez dire encore une fois, tout ceci est bien difficile à entendre. Et c'est pour cela qu'en ce troisième dimanche de l'Avent, l'Église nous dit, c'est l'antienne de communion, « Dites aux pusillanimes, prenez courage et ne craignez point, voici votre Dieu qui viendra et vous sauvera. » Qu'est-ce que les pusillanimes ? Ce sont littéralement les petites âmes, c'est-à-dire les faibles, les lâches, ceux qui se dérobent devant l'effort que Dieu demande d'eux, cette violence par laquelle on enlève le royaume de Dieu. « Dicite pusillanimes confortamini. » Dites, vous qui êtes lâches, vous qui êtes faibles, vous qui êtes paresseux, soyez forts. Voyez, soyez fortifiés, prenez courage. Et nullité téméré. Et ne craignez pas votre propre faiblesse. Combattez généreusement dans la carrière que Dieu a tracée sous vos pas, et c'est l'État, c'est uniquement l'État, l'État de vie, et pas l'État réel dans lequel on est, non pas un État imaginaire. Combattez la tristesse charnelle par la gratitude. Combattez les désirs des biens temporels par la contemplation de la hideur des choses temporelles. Combattez par la gratitude. Soyez reconnaissant pour les bienfaits que vous avez déjà reçus, car il ne faut pas les oublier, c'est une très grande ingratitude que d'oublier les bienfaits que Dieu nous a faits jusqu'à présent, et Dieu viendra et il nous sauvera. Si nous faisons ce que nous devons faire pour nous maintenir en état de grâce, dans cet état où nous retenons la grâce, alors véritablement, comme c'est déjà une grâce, Dieu viendra et nous sauvera, et nos ténèbres que nous aurons haïs seront dissipées par la clarté de sa visitation. Que Dieu nous aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.